Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Emmanuel Macron va être sacré champion de la Terre aujourd'hui à New York. Il va recevoir ce titre qu'il partagera d'ailleurs avec le Premier ministre indien en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies lors du One Planet Summit. Ce sera la deuxième édition de ce rendez-vous initié à Paris l'an dernier. Est-ce que ce titre vous paraît pleinement mérité? Est-ce qu'il récompense selon vous un homme totalement engagé dans la cause écologique?
Écoutez, c'est quelqu'un qui a décidé d'en faire un cheval de bataille au niveau international à un moment où les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris et où on sent du climato-scepticisme qui augmente dans certaines grandes puissances. C'est absolument essentiel de le faire et moi je suis heureuse que le président de la République ait décidé de se lancer dans cette bataille-là qui est la bataille de la vie et qui est la bataille de notre avenir. Mmh. Donc c'est très bien qu'il le fasse, c'est très bien qu'il passe un certain nombre de messages, comme j'ai entendu hier à l'Assemblée générale des Nations Unies où il dit qu'on ne peut plus passer d'accord commerciaux avec des gens qui ne respectent pas l'accord de Paris. Mmh. Alors, c'est une phrase, mais si ça, on l'applique, ça aura vraiment des conséquences très importantes. Et surtout, si dans tous les accords commerciaux, enfin, on inclut la question environnementale.
Mais est-ce que Emmanuel Macron ne cherche pas finalement à prendre un leadership mondial sur cette question de la défense de la planète sans être vraiment exemplaire dans l'action écologique en France? C'est ce que dénonce par exemple l'eurodéputé, votre ami Yannick Jadot, qui dit il a trouvé un très beau slogan, mais il est loin d'être un moteur en Europe sur le sujet. Il rappelle la participation au forage pétrolier en Guyane, l'importation d'huile de palme, le nucléaire qui continue, etc., etc.
Oui, mais Yannick Jadot, la baguette magique pour changer le monde en 2 minutes, il faut qu'il nous la donne. Mais ce que je vois, moi, c'est que il a mis en place un certain nombre de politiques qui vont mettre un certain temps. Évidemment, moi, en tant qu'écologiste, je voudrais qu'on aille plus vite, je voudrais qu'on ait des normes un peu plus contraintes, etc. Simplement, ce que je vois, c'est que la fameuse trajectoire carbone, qui est un point très important de la loi de transition énergétique, on est en train de l'accélérer. Ça veut dire que on va donner un prix au carbone, ça va coûter plus cher de polluer. On est en train de mettre en place une fiscalité qui pèse moins sur le travail, plus sur la pollution. Alors, ça déplaît à certains, mais ça, ce sont des outils très importants. Et puis, on a augmenté, effectivement, nos émissions de gaz à effet de serre en France l'année dernière. C'est essentiellement à cause de la question des transports, sur laquelle personne ne s'est penché suffisamment depuis très longtemps. Et ben là, enfin, on met des moyens dans le budget 2019 pour, justement, que les mobilités nous permettent d'éviter de prendre la voiture, de faire en sorte de trouver des alternatives au transport par camion, etc.
On entend régulièrement des appels, ils se sont multipliés encore ces dernières semaines, émanant de très nombreuses personnalités en faveur d'une action résolue pour éviter les conséquences du réchauffement climatique. Et on a l'impression finalement que ce scénario, on le revit depuis maintenant des dizaines d'années déjà, régulièrement, que les appels sont toujours plus pressants, plus alarmants, que l'urgence est toujours plus grande. Certains disent aujourd'hui que le point de non-retour, il n'est plus dans 10 ou 20 ans, mais qu'il est dans 3 ans. Est-ce que vous pensez que, au-delà des discours encore, l'action de la France et d'Emmanuel Macron, elle est à la hauteur aujourd'hui de cette urgence?
Vous savez, moi, ça fait presque 20 ans que je suis engagée en politique et engagée dans l'écologie. Ouais. Donc, j'ai parfaitement conscience de l'urgence et j'ai parfaitement conscience qu'il faut qu'on réussisse à entraîner tout le monde. Et c'est pour ça que c'est très important des actions qui sont faites au niveau international, comme le One Planet Summit, parce que nous, évidemment, il faut qu'on accélère au niveau français. Et je peux vous dire que dans toutes les politiques qui sont menées, quelles qu'elles soient, y compris l'éducation, y compris la santé, moi, je milite et je pousse pour que la question environnementale soit inscrite dans ces politiques. Mais il faut aussi.
Mais ça n'est manifestement, ça ne fonctionne pas puisque Nicolas Hulot est parti en disant voilà, il y a des blocages partout, on n'y arrive pas.
Nicolas Hulot, quand on reparlera de son bilan, je crois qu'il sera un peu moins négatif que ce qu'il a dit.
Il s'est trompé lui-même sur son propre bilan.
Je crois que il est comme tout écologiste, il veut que ça aille plus vite et quand ça ne va pas assez vite, il considère que c'est un échec. Simplement, on pourra faire un point sur son bilan si vous le voulez et vous verrez qu'il n'est pas si noir que ça. Maintenant, oui, il faut accélérer, mais il faut aussi accélérer au niveau international. Il faut aussi, et ça c'est intéressant dans le One Planet Summit, que les finances mondiales s'orientent vers des investissements, vers les renouvelables, vers la protection de l'environnement. Et ça peut être vraiment un atout que Emmanuel Macron peut vendre à l'extérieur, que enfin on arrête de faire des investissements dans ce qui n'a pas d'avenir, c'est-à-dire notamment les énergies fossiles, le nucléaire, etc.
Est-ce que vous pensez que François Drugy pourra faire, non pas mieux, puisque vous semblez dire que Nicolas Hulot a fait déjà pas si mal, mais plus que Nicolas Hulot? Est-ce que, par exemple, son expérience politique va lui lui permettre, lui, de peut-être mieux s'organiser dans le travail, de mieux chercher les appuis et de mieux résister au lobby.
Oui, alors chacun a ses atouts. François de Rugy a un atout que n'avait pas Nicolas Hulot, c'est que il connaît le fonctionnement du monde politique et donc il peut déjouer certains pièges plus facilement. Face au lobby, oui, il faut savoir tenir. Les annonces qu'il a pu faire depuis qu'il est arrivé sont plutôt de bon aloi. Le fait, alors ça paraît symbolique comme ça, mais le fait qu'il décide de réintroduire des ours dans les Pyrénées, ça c'était déjà, ça fait longtemps qu'on essayait de le faire.
Oui.
C'était dans les tuyaux, mais le fait qu'il y aille, le fait qu'il aille sur place, le fait qu'il soit capable d'aller affronter des gens qui sont contre et qui tiennent bon sur quelque chose qui est très symbolique, mais qui est aussi très important. Je veux dire, si on protège l'ours, en fait, on protège toute la biodiversité autour. Ça a du sens. Ça montre qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, y compris sur des choses qui ne plaisent pas à tout le monde.
Alors, sur affronter des gens qui sont contre, le récit du canard enchaîné ce matin donne un autre éclairage. Il semblerait que les opposants n'aient pas été directement en contact avec lui le jour de son déplacement dans le Béarn. Mais enfin, c'est...
Ne vous inquiétez pas si vous laissez s'exprimer, ils auraient pu le faire sans aucun problème.
Manuel Valls va-t-il faire un bon maire de Barcelone ?
Écoutez, on verra s'il est élu. Moi, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens...
Pourrait-il faire plutôt, parce que va-t-il faire, voilà, c'est un peu présomptueux.
Voilà, mais j'ai entendu beaucoup de réactions face à cette annonce. Moi, je trouve que c'est une annonce qui a beaucoup de sens, en fait, en ce moment. On est dans un moment où l'Europe, on se pose des questions sur l'Europe, et puis là, voilà, on a quelqu'un qui se déclare citoyen européen, qui assume le fait qu'il a une identité multiple. Il a toujours été un amoureux de la France, et il a toujours été français, mais il avait aussi, et il a toujours une identité espagnole, catalane et européenne, ben voilà, il l'exprime à travers quelque chose que tout citoyen européen peut faire. Hein. On est électeur et on peut être élu dans les élections municipales partout en Europe. Ben voilà, je trouve que c'est un message d'ouverture, c'est un message au moment de toute cette période de repli sur soi. Je trouve que c'est positif et donc ceux qui veulent râler, ben, qui râlent.
Ils sont nombreux. Qui disent bon débarras, vous êtes parmi les très rares à saluer une forme de panache dans la démarche, quoi.
Écoutez, il a le sentiment que il peut plus apporter là-bas qu'en France aujourd'hui. Moi, je crois que vraiment, quand on a envie de s'investir, on y va. Et de toute façon, il y aura toujours des gens qui râleront sur tout.
C'est aussi parce que le président de la République n'a pas voulu lui faire de place dans cette nouvelle majorité.
Il y a une nouvelle configuration en France, clairement.
Oui, mais enfin, il a tapé à la porte, Manuel Valls.
Il y a une nouvelle configuration. Quand on fait de la politique, à un moment, on doit sentir là où on a vraiment envie de faire des choses et là où on peut être utile. S'il a le sentiment qu'il peut être utile à Barcelone, eh ben, qu'il y aille et qu'il fasse sa campagne. Mmh. Et puis, on verra ce que ça donnera. Et un peu de bienveillance dans ce monde, ça ferait pas de mal.
Barbara Pompili, il n'y a aujourd'hui toujours pas de femme à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est Richard Ferrand. Il n'y a toujours pas de femme à la présidence du groupe La République En Marche, c'est Gilles Legendre. Est-ce que vous ne vous dites pas que les vieilles habitudes ont quand même la vie dure ?
Bah si.
Je rappelle que vous aviez été candidate à la présidence
de
la
France. Si. Les choses bougent quand même. Je veux pas donner un portrait en noir et blanc. J'essaye d'être juste. Il y a beaucoup plus de femmes depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale. J'ai vu la différence. Hein, je peux vous dire, j'ai connu l'avant. Il y a beaucoup plus de femmes aux responsabilités, hein, aux présidences de commissions, etc. Mais il y a toujours effectivement ce petit plafond de verre, et pas ce plafond de verre sur les responsabilités les plus importantes dans nos institutions. On est quelques-unes à donner des coups de boutoir pour casser ce plafond de verre et on finira par y arriver.
Mais voilà. C'est à vous de le faire toute seule ou il faut que les hommes vous aident ?
Ah, mais vous savez, quand j'ai été candidate pour la présidence de l'Assemblée nationale, j'ai reçu énormément de soutien de toute la France et beaucoup de soutien d'hommes.
Merci Barbara Pompili, bonne journée.